Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. La libre antenne, vous le savez, nous sommes vendredi. Vous pourrez donc commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. Donc rejoignez-nous. Venez lancer le débat en direct sur l'antenne de RFI. Un seul numéro pour nous rejoindre, le 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires, vos réactions sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous évidemment en message privé vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter et que vous puissiez être avec nous en direct sur cette antenne, la page officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vous le savez, à cette heure-ci, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions et sans surprise, des questions ce matin sur la Coupe du Monde de football. Et pour vous répondre, deux des envoyés spéciaux de RFI en Russie sont avec nous. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Chef du service des sports en direct d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, c'est à quelque chose comme 1400 km de Moscou, et c'est dans cette ville que se tiendra cet après-midi la rencontre Égypte-Uruguay. Également avec nous Antoine Grenier, bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Un grand merci Antoine de nous avoir fait vivre hier le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Vous étiez aux côtés d'Olivier Pron et d'Olivier Fiani. Alors hier vous étiez à Moscou, vous êtes levé de bonne heure ce matin, vous avez pris l'avion et vous êtes actuellement dans la République du Tatarstan. Vous êtes dans le stade de Kazan où les Bleus joueront demain leur première rencontre, leur premier match face à l'Australie. Juste un peu de géographie puisqu'on découvre évidemment en même temps que les auditeurs, ces villes russes. Kazan, c'est à un peu moins de 1000 km de Moscou. Messieurs, Alejandro et Antoine, je vous propose tout de suite de passer au standard. Il y a beaucoup de questions, évidemment. La première nous vient du Gabon. Fadel est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Alors, Lopetegui a été limogé à la tête de l'Espagne. Et j'aimerais savoir comment expliquer que les négociations entre le Real Madrid et Lopetegui se sont faites sans que la fédération espagnole ne soit informée. Et malgré le départ du sélectionneur, l'Espagne reste-t-elle favorite pour la victoire en Coupe du Monde?
Ouais, l'Espagne qui fait son entrée d'ailleurs ce soir, ce sera le match choc du premier tour, Portugal-Espagne. Alejandro Valente, c'est une question pour vous, question sur le limogeage du sélectionneur de l'Espagne à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, c'est du jamais vu. Et Fadel a raison, la négociation entre Lopetegui et le Real Madrid a eu lieu sans que la fédération espagnole en soit informée.
Oui, alors pour comprendre, il faut savoir qu'il y a un nouveau président à la tête de la Fédération espagnole depuis les mois derniers. Il s'agit de Luis Rubiales, qui est un ancien syndicaliste, quelqu'un qui a eu l'habitude de se battre contre les dirigeants précédents et qui met en avant le respect de la loyauté, le respect d'un certain nombre de valeurs. Or, il se sent un peu trahi par Lopetegui, car justement, il venait de lui renouveler son contrat jusqu'en 2020 et il trouve assez désolant qu'il ne l'ait pas tenu informé.
Alejandro Valente. Il y a des micro-coupures entre Paris et l'Oural. On va essayer de vous retrouver évidemment dans un instant. Est-ce que nous avons Alejandro Valente en secours sur téléphone? On vous entend, vous êtes là. On vous entendra avec une ligne. Non, vous n'y êtes pour rien Alejandro, c'est la technique, vous savez, ça nous échappe tout ça.
Hein.
Donc oui, effectivement, ce que n'a pas accepté le président de la Fédération espagnole de football, c'est d'apprendre l'information finalement par téléphone 5 minutes avant l'annonce officielle.
Voilà, exactement. Alors qu'il estimait avoir été particulièrement conciliant avec Lopetegui, même en lui renouvelant son contrat, il estime que finalement les choses n'ont pas été faites dans la clarté. Et pour lui, ça passait devant toute chose. En plus, il estimait que Lopetegui, dans sa nouvelle casquette d'entraîneur du Real Madrid, risquait d'être au centre de toutes sortes de polémiques par rapport au choix qu'il allait faire qu'il allait faire en matière de présence ou pas de certains joueurs. Vous savez, en Espagne, c'est toujours très tendu entre les fans du Real, les fans du Barcelone. Donc, il estimait que c'était pas gérable et il a préféré donc prendre une mesure difficile, certes, mais qui était pour lui indispensable.
Alors, c'est évidemment un coup dur pour la Roja, la sélection espagnole, d'autant que le bilan de Lopetegui est plutôt bon. 14 victoires, 6 nuls et aucune défaite. Malgré ce limogeage, Alejandro Valente, c'est la question de Fadel, l'Espagne reste-t-elle favorite pour ce mondial ?
Bah écoutez, l'Espagne s'est bien préparée et elle a un style de jeu qui remonte à plusieurs années. Je pense que les joueurs sont des grands professionnels qui évoluent pour la plupart dans des très grands clubs comme le Real ou Barcelone. Donc le changement d'entraîneur était un élément qui perturbateur sans aucun doute, mais a priori ça ne devrait pas empêcher l'Espagne de continuer son chemin en Coupe du Monde. Après, ce sont les aléas du jeu et il faudra voir si cette affaire n'a pas laissé trop des traces dans la tête de certains joueurs. Et le test ce soir face au Portugal va être très éclairant.
En tout cas, le président de la Fédération espagnole est plutôt optimiste. On pourrait penser que nous sommes en position de faiblesse, mais avec le temps, tout cela nous rendra plus forts, a-t-il dit en conférence de presse. Restez avec nous, Alejandro Valente. Encore une question concernant cette équipe espagnole et surtout le sélectionneur intérim, Fernando Hierro, qui succède donc au pied levé à Lopetegui. Bonjour Marc.
Et bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Cara, au Togo, nous vous écoutons.
Après le limogeage du sélectionneur espagnol Lopetegui à l'aube du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Fernando Hierro prend les commandes de cette équipe. Juan, j'ai jamais entendu parler de ce sélectionneur, du moins avant sa nomination. J'aimerais savoir quels sont les palmarès de ce sélectionneur.
Alors, Alejandro Valente, on va commencer peut-être par ses palmarès en tant que joueur de football. Ce sera un peu plus long que ses palmarès en tant qu'entraîneur.
Raison. Effectivement, en tant qu'entraîneur, il n'a aucun palmarès puisqu'il n'a pratiquement jamais exercé, à part quelques missions très ponctuelles à droite ou à gauche et souvent dans des clubs pas très importants. Après, c'est un joueur qui a eu une carrière de joueur brillante en tant que défenseur du Real Madrid. Il a pratiquement tout gagné avec ce club et à la suite de ça, il a joué différents rôles dans les coulisses, que ce soit à Malaga, sa ville d'origine et son club, où il a joué un rôle de dirigeant, comme au sein du Real Madrid, où il a été souvent dans son second rôle, mais quand même présent derrière Ancelotti, Zidane et compagnie. Donc aujourd'hui, il faisait partie du staff de l'équipe d'Espagne et il apparaissait comme une solution logique de faire appel à lui malgré son manque d'expérience réelle en tant qu'entraîneur titulaire.
Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'il connaît bien le groupe, la sélection espagnole, donc c'est un avantage évidemment pour lui qui prend donc au pied levé la sélection espagnole. Antoine Grenier, vous patientiez, mais tout arrive, voilà des questions maintenant concernant l'équipe de France de football, puisqu'Antoine, rappelons-le, on vous retrouve tous les jours dans le journal des Bleus sur l'antenne de RFI, vous allez donc suivre, j'espère, le plus loin possible dans la compétition l'équipe de France. Ahmed, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lisbonne.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Nous vous
écoutons. Bien sûr. Ok, Juan, j'ai une question sur l'équipe de France et en particulier Djibril Sidibé. Nous savons que Djibril Sidibé a été sélectionné étant blessé ou en revenant des blessures avec son club l'AS Monaco, qu'il risque le forfait de la Coupe du Monde. Ma question est de savoir que prévoit le règlement FIFA en ce cas précis, étant donné que le règlement FIFA stipule que on peut remplacer un joueur à 24 heures de l'entrée de sa sélection en lice.
Alors,
un joueur blessé pendant la préparation finale, autrement d'après la liste finale.
Alors, Antoine Grenier, d'abord, avez-vous des nouvelles de Djibril Sidibé ? Est-ce que les nouvelles sont bonnes ?
Alors évidemment, on n'a pas de nouvelles direct, le joueur ne nous a pas informé, mais il y a des échos comme quoi il se porterait parfaitement bien, en tout cas qu'il serait largement apte, Djibril Sidibé, à pouvoir disputer cette Coupe du Monde, et que Didier Deschamps compterait sur son latéral qui compte 17 sélections, on le rappelle, en équipe de France, qui est un élément plutôt important. De toute façon, l'équipe de France n'a plus qu'une quarantaine de minutes maintenant pour remplacer Djibril Sidibé, si jamais elle venait à le faire, effectivement, parce que demain, c'est le match contre l'Australie, et Ahmed le disait, il connaît très bien le règlement, le remplacement s'effectue uniquement jusqu'à 24 heures avant le début du match, et il faut que ce soit homologué par un médecin de la FIFA, ce forfait. Donc, pour l'instant, on est dans l'hypothèse, celle qui tient la corde et qui a l'air vraiment la plus probable, que Djibril Sidibé tiendra son rang parmi les Bleus lors de cette Coupe du Monde.
Si jamais il est forfait, que prévoit concrètement le règlement de la FIFA ? Didier Deschamps peut appeler un des joueurs suppléments, rester en France, ou expliquez-nous, parce que je découvre, comme exactement, une grande majorité d'auditeurs, le règlement de la FIFA.
Ce qui se passe, c'est que si jamais le forfait de Djibril Sidibé est acté et que le staff de l'équipe de France décide, je vous le dis, dans les 40 minutes qui viennent, de remplacer le latéral de Monaco, dans ces cas-là, l'un des joueurs que Didier Deschamps a placé sur sa liste des suppléants en début de Coupe du Monde, lorsqu'il a édicté sa liste des 23. À ce moment-là, il peut faire appel à ce joueur qui rejoindra le groupe à Kazan, du coup, avant le match contre l'Australie. Normalement, si jamais Djibril Sidibé devait ne pas jouer, il serait remplacé par, a priori, Mathieu Debuchy, le latéral de Saint-Étienne, qui connaît bien la Maison Bleue puisqu'il a disputé notamment l'Euro 2012 et qui a fait une très bonne fin de saison avec Saint-Étienne.
Voilà, donc...
Mais on sait que Didier Deschamps tient absolument à la participation de Djibril Sidibé.
Oui, réponse définitive donc dans 38 minutes exactement, si j'ai bien compris, puisqu'il y a effectivement un délai fixé par la FIFA. Antoine, autre question concernant l'équipe de France. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Conakry, nous vous écoutons.
Oui, Juan, la France s'est inclinée lors du dernier match de préparation un but partout face à une faible équipe des États-Unis. La défense reste le point faible de l'équipe de France. Qu'est-ce que Didier Deschamps compte faire pour améliorer cette défense ?
Alors Antoine Grenier, c'est vrai qu'il a fallu, on a vu ce match, hein, tous ceux qui soutiennent l'équipe de France, ce match, dernier match de préparation, qui a posé quand même un certain nombre de questions. À la mi-temps, les Américains menaient 1-0, il a fallu attendre la 78e minute pour l'égalisation. Il y a effectivement des problèmes de défense.
En tout cas, sur ce match-là, il y a eu un trou d'air au pire moment, c'est-à-dire que l'équipe de France a pris un but juste avant la mi-temps, mais c'est surtout que l'équipe de France a pris un but contre le cours du jeu, mais complètement contre le cours du jeu, à un moment où elle dominait cette rencontre, et finalement sur le seul tir cadré des Américains, dans ce match qui, on le rappelle, hein, se jouait à Lyon. Les Américains ont frappé deux fois au but et ont marqué un but par Julian Green. Effectivement, l'équipe de France a montré une forme de fébrilité lors de cette rencontre. Alors, théoriquement, c'est d'autant plus inquiétant que théoriquement cette défense qui avait été alignée à Lyon est la défense titulaire de l'équipe de France. C'était Benjamin Mendy à gauche, la charnière Samuel Umtiti, Raphaël Varane, et à droite Djibril Sidibé dont on vient de parler.
Ouais, enfin, certains défenseurs ont quand même donné satisfaction. Tout n'est pas négatif, Antoine.
Non, évidemment, tout n'est pas négatif, tout n'est pas toujours à jeter, mais ceux qui ont donné satisfaction, ce ne sont pas les titulaires. Ceux qui ont donné satisfaction, c'est Lucas Hernandez à gauche, lorsqu'il a remplacé Benjamin Mendy, qui, on le rappelle, lui aussi était blessé avant la Coupe du Monde. Lui aussi a eu des difficultés physiques et pour l'instant, il n'a pas les jambes pour tenir plus d'une heure dans une rencontre Benjamin Mendy, le latéral de Manchester City. Son remplaçant, Lucas Hernandez, de l'Atlético de Madrid, a lui donné satisfaction quand il est rentré, lorsqu'il a joué, notamment le match contre l'Italie, il avait été très bon. Et du côté droit, le suppléant de Djibril Sidibé, il s'appelle Benjamin Pavard, il a délivré la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé contre les États-Unis. Donc lui aussi, c'est un client. D'ailleurs, Benjamin Pavard a des chances de débuter demain contre l'Australie.
Le temps passe très vite, Antoine Grenier. On parle de la défense. C'était la question d'Abdoulaye. Et la remarque très pertinente de notre auditeur. L'attaque non plus n'a pas été excellente.
L'attaque a été relativement brouillonne et c'était peut-être à mettre sur le fait que Didier Deschamps a tenté un coup, en tout cas a tenté de retravailler son attaque. Il avait aligné Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans un trident offensif et où on a vu les joueurs se marcher un peu dessus. C'était un petit peu compliqué comme mise en place face aux États-Unis. Olivier Giroud n'a quasiment pas eu de relation technique avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, ce qui était relativement inquiétant.
Ouais. C'était quand même risqué pour Didier Deschamps de tester un nouveau système à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football tout de même.
Ah, évidemment que c'était risqué, mais c'est un risque qu'il est prêt certainement à assumer, en tout cas sur ce match-là, parce que pour le prochain, d'après les mises en place tactiques qu'on a pu voir pour le match contre l'Australie, il devrait changer complètement son fusil d'épaule, Didier Deschamps, et aligner Antoine Griezmann en pointe, donc en attaque, avec derrière lui, sur ses côtés, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le Barcelonais, dont la relation technique est beaucoup plus intéressante. Et Antoine Griezmann, qui a été utilisé en meneur de jeu contre les États-Unis, devrait devenir l'attaquant de l'équipe de France, en tout cas contre l'Australie. C'est là, pour le coup, le scénario qui se dessine petit à petit.
On verra ça donc demain pour le premier match de l'équipe de France. Vous serez évidemment aux commentaires sur l'antenne Afrique de RFI. Merci Antoine Grenier. On vous libère. Bonne journée à Kazan, dans la République du Tatarstan. Alejandro Valente est toujours en direct avec nous. Alejandro, avant d'arriver donc à Ekaterinbourg, vous étiez à Moscou, vous étiez mercredi dans la capitale russe où la FIFA tenait son congrès, et on a reçu des questions, évidemment, beaucoup de questions, mais on n'en prend qu'une, concernant l'attribution de la Coupe du Monde de football 2026 au trio États-Unis, Mexique, Canada. Bonjour Zico.
Oui, bonjour Juan et bonjour à des millions d'auditeurs des RFI.
Vous êtes à Lubumbashi.
Très bien, comme vous l'avez dit plus tôt, les trios USA, Mexique et le Canada, c'est étonnamment vu désigné pays hôte de la Coupe du Monde 2026, au détriment bien entendu du Maroc. Alors, qu'a-t-il exactement manqué au Maroc pour
désigner ? Alors, Alejandro Valente, comment expliquer cet énième échec des Marocains ?
Ben disons que c'était un résultat plutôt logique. Le Maroc promettait déjà beaucoup moins de recettes à la FIFA que les États-Unis, la moitié exactement. C'est un élément très important. Les États-Unis, avec le Mexique et le Canada, disposent d'infrastructures parfaitement opérationnelles et notamment d'immenses stades déjà prêts, alors que le Maroc doit en bâtir la plupart de stades et des infrastructures. Donc c'était le choix de la sécurité, mais ce qui a manqué surtout au Maroc, c'est une capacité à séduire totalement le camp africain. Il y a quand même une douzaine de voix qui ont manqué aux Marocains sur le continent, y compris le Bénin ou la Guinée-Conakry. Mmh. C'était quand même désolant. Et puis, en dehors de l'Afrique, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à séduire. En Europe, en particulier, à part la France, l'Italie et les pays du Benelux, les autres pays ont voté massivement pour les États-Unis. Et même au sein du monde arabe, les Marocains ont recueilli relativement peu de voix. Donc, pour la prochaine fois en 2030, puisqu'ils envisagent cette candidature, il faudra qu'ils soient plus convaincants.
Plus convaincants et qu'ils parviennent effectivement à cette unité africaine qui a tant manqué pour défendre le dossier marocain en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2026. On en parlera tout à l'heure dans la libre antenne. Vous êtes d'ailleurs quelques-uns à souhaiter, disons-le clairement, pousser un coup de gueule face à ce manque d'unité africaine, puisque le dossier marocain était quand même présenté comme la candidature de l'Afrique, l'Afrique qui pour l'instant, en 100 ans quasiment de Coupe du Monde, n'a organisé qu'un seul mondial, et le rêve étant que l'Afrique puisse accueillir à nouveau et le plus vite possible cette compétition. Alejandro Valente, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à Ekaterinbourg. On vous retrouve évidemment un peu plus tard, aux alentours de 14h, enfin aux alentours non, un match de football FIFA commence pile à l'heure, donc ce sera à 14h, temps universel sur l'antenne Afrique, pour suivre en direct Égypte-Uruguay, match qui s'annonce passionnant, d'autant que Mohamed Salah sera bien là sur le terrain. C'est bien ça, Alejandro ?
En tout cas, c'est ce qu'a promis les sélectionneurs. On va voir s'il est titulaire dès le coup d'envoi.
Eh bien, je serai à l'écoute, évidemment, comme des millions d'auditeurs. Ce sera à midi, temps universel.